Alors, j'aimerais vous parler ce matin d'un homme qui a marqué son époque au point où toute une société faisait confiance aux exigences de la parole de Dieu, au caractère de Dieu, et était saisi de la crainte de Dieu. Et à cette époque, eh bien, la plupart des conversations que vous pouviez entendre tournaient autour de Dieu. On parlait de Dieu, on parlait des œuvres de Dieu, on parlait de sa parole, et ce, à cause d'un seul homme qui était puissant en parole, puissant en œuvre de toutes sortes, et contrairement à nous, un homme à travers qui Dieu accomplissait des miracles. Son ministère était tellement puissant que lorsque Jésus est venu, chacun croyait, ou beaucoup de gens croyaient, que c'était cet homme qui était ressuscité parce que son ministère avait été tellement puissant. Vous devinez c'est qui? Oui, il y en a qui l'a dit là, timidement, mais il l'a dit. Oui. J'aimerais bien que mon voisin, mes collègues, mes amis, ma propre famille et mon entourage parlent tous les jours de Dieu. J'aimerais bien que cette église, cette ville et ce pays soient saisis par la crainte de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est encourageant, c'est qu'il est possible à une seule personne de faire une impression extraordinaire pour Dieu sur sa génération. Et c'est exactement ce qui est arrivé au prophète Isaïe. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 roi ce matin. 1 roi chapitre 17. C'est très rare que je prêche sur un seul verset. Ce matin, je vais prêcher sur un seul verset, le verset 1. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous parler de son époque. Alors, ça va être un peu, peut-être ardu pour certains, parce qu'on va regarder le contexte d'abord ce matin, parce que je ne vous cacherai pas qu'on va faire une série, j'aimerais apporter une série de messages sur le ministère d'Élie, donc chapitre 17, 18, 19, et 2 rois 1 et 2 rois 2, jusqu'à ce qu'Élie soit enlevé. Je pense que c'est dans l'époque dans laquelle on vit, c'est un message qui devrait nous encourager, qui devrait nous fortifier, et qui devrait nous parler, parce que je pense que Dieu veut qu'il y ait des Élie à notre époque qui se lèvent, justement, pour manifester sa puissance à travers ceux qui lui appartiennent. Alors, l'époque d'Élie correspond à la fin du 10e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, Abraham, Isaac, Jacob sont morts depuis longtemps. Les plaies d'Égypte, la Pâque, l'Exode, Moïse, Josué, l'entrée dans la terre promise, eh bien, c'est l'histoire ancienne. Et les juges qui ont dirigé le pays sont maintenant morts. Pardon. Le prophète Samuel et le roi Saül ne sont plus, et il n'y a plus personne parmi ceux qui sont vivants qui a connu l'âge d'or du roi David et du roi Salomon. Même si nous savons que Salomon, finalement, avait introduit quelque chose d'affreux dans le pays, il avait introduit l'idolâtrie. Et celui qui va succéder à Salomon s'appelle Roboam. Et pendant son règne, quelque chose va se passer. C'est que la nation va se séparer en deux. Et Roboam a voulu agir en despote, impitoyable, en suivant le conseil de ses anciens compagnons de classe. Ce qui va provoquer une rébellion au point où 10 tribus vont se révolter contre lui et vont choisir comme roi Jéroboam. J'espère que c'est pas facile à suivre, hein? Roboam, Jéroboam, c'est deux rois différents. Alors, 10 tribus vont décider de suivre Jéroboam. Et nous nous retrouvons donc avec deux nations, celle qui se trouve au nord, qui s'appelle la nation d'Israël, qui comprend donc 10 tribus, et dont la capitale se nomme Samarie, et une nation qui se trouve au sud, qui s'appelle Juda, et dont la capitale est Jérusalem. Et on peut, bizarre, hein, chose à dire, mais ça arrive encore aujourd'hui, ce sont deux nations qui se détestent, et deux nations qui sont continuellement en guerre, l'une contre l'autre depuis des années. Alors, mais Jéroboam, celui qui est au nord, il y a des petits soucis. Parce que les gens doivent se rendre à Jérusalem 3 fois par année pour célébrer des fêtes qui sont obligatoires pour la nation juive. Et les gens qui quittaient le nord et qui, à chaque année, devaient se rendre à Jérusalem pour célébrer ces fêtes, le problème, c'est qu'il y en avait qui avaient décidé, après avoir célébré ces fêtes-là, non plus de retourner dans le sud, mais de rester au nord. Alors, ils s'apercevaient que sa population diminuait. Et ça y causait des problèmes. C'est un peu comme la Belgique qui forme un pays. C'est à un moment donné, vous aviez au nord, c'est les Flamands, oui, parce que j'ai de la difficulté avec mes points d'orientation, hein, oui, les Flamands, et au sud, vous avez la Wallonie. Et là, en Wallonie, ben, il y a quelque chose de spécial, c'est que il y a un endroit où c'est dédié à un roi, et puis vu que les gens sont très idolâtres et très religieux, ben les gens, de fois par année, le gouvernement a passé une loi, et les gens doivent aller adorer le roi dans ce monument, dans ce sanctuaire qu'on a construit pour le roi en Wallonie. Et là, ce qui arrive, politiquement parlant, c'est que le pays se scinde en deux. Alors, c'est un peu ça qui se passe ici. Le pays se scinde en deux, et comme les Flamands doivent quand même venir en Wallonie pour venir une fois par année adorer ce roi disparu, ce grand roi, eh bien, il y en a qui se disent, « Bien, écoute, tant qu'à faire le voyage à toutes les années, on doit passer minimum 2 semaines ici, pourquoi pas s'acheter une maison secondaire? » Et puis finalement, d'année en année, bien, ils disent, « Pourquoi pas, on ne devrait pas rester ici? » Et là, bien, les Flamands, il y en a de plus en plus qui viennent s'établir en Wallonie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on décide de construire quelque chose en Flandre. On essaie d'inventer un autre roi, créer une autre sorte de politique pour essayer de garder les Flamands en Flandre et éviter cet exil en Wallonie. Mais c'est un petit peu ce qui va se passer ici. Et ça va amener des choses épouvantables. Pourquoi? Parce que Jéroboam va devoir instaurer, lui aussi, 3 nouvelles fêtes au nord. Il va faire fabriquer 2 veaux d'or pour en faire des dieux. Il va ensuite faire construire des sanctuaires, puisque le sanctuaire se trouve à Jérusalem. Donc, il n'y en a pas de son côté. Donc, il va faire construire des veaux d'or. Il va faire construire dans un deuxième temps des sanctuaires. Et vu que la tribu de Lévi, eh bien, les prêtres sont du côté du sud, lui, il va piocher à droite et à gauche. Et il va se nommer, contrairement à la loi, il va nommer n'importe qui comme prêtre, lui, pour essayer de faire en sorte de créer qu'on puisse célébrer ces nouvelles fêtes-là. Et il va établir aussi une fête pour les enfants. Et rapidement, son pays devient un pays qui va sombrer dans une idolâtrie, pardon, encore jamais vue en Israël, au point où le péché, pourrait-on dire, va pratiquement devenir quelque chose de normal pour les gens. Ça ressemble un peu à la situation qu'on vit, non? Et l'histoire se répète, quoi. L'histoire se répète. Et en réalité, pour pas qu'une nation puisse disparaître, eh bien, à chaque fois, Dieu va susciter dans cette nation un homme capable de se lever, un homme qui va s'examiner, qui va avoir une relation avec Dieu. On va le voir hein, dans le verset 1, parce que le verset 1 nous parle énormément, quoi. Et cet homme va se lever, et au nom de Dieu, il va aller voir ces 2 rois-là. Il n'est pas là pour se faire des amis, puisqu'il est en relation avec Dieu. Donc, que sa relation soit brisée, soit avec Roboam ou Jéroboam, il n'y en a rien à cirer. Ce qui est important pour lui, c'est son Dieu. Et il va venir apporter un message. Il va venir apporter un message au roi Achab, entre autres. Un message va lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Et ici, eh bien, au nord, c'est-à-dire en Israël, eh bien, c'est pas plus réjouissant parce que c'est le roi Achab. Et le roi Achab, il était marié avec qui? Et le texte nous dit, quand on essaie d'identifier, caractériser le roi Achab, le texte biblique nous dit, « Celui qui fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. » Il avait marié une païenne qui s'appelait Jézabel, qui venait de Sidon et qui était une incarnation vivante du mal. Elle poussait son mari à l'idolâtrie ouverte et à vivre dans le péché. Elle adorait les dieux Baal, c'était ses dieux, et elle en fera la religion officielle de la nation qui se trouvait au nord. Et en ce qui concerne ceux qui adorent le Dieu vivant et vrai, eh bien, il y avait un avis de recherche qui était lancé contre eux. Et en ce qui concerne les prophètes de l'Éternel, eh bien, ils étaient persécutés, et quand ils étaient attrapés, eh bien, ils étaient tués. Alors, tout ce qui restait comme prophètes, c'est ceux qui avaient trouvé le moyen de se cacher dans des cavernes pour éviter d'être pris et d'être assassinés. Alors, on réalise facilement qu'il y a une obscurité spirituelle totale qui couvre le Nord. Il y a d'horribles abominations qui se font de part et d'autre. On retrouve des autels païens tachés par le sang des martyrs et par celui des prophètes. On y retrouve des temples païens éparpillés un peu partout dans le pays. Chaque colline est témoin de toutes sortes de rites immoraux et chaque vallée résonne de blasphème et de cruauté. On a l'impression que Satan a quitté l'enfer et qu'il s'est installé dans ce royaume qui s'appelle Israël. Royaume qui porte quand même le nom de Dieu parce que Israël, c'est un 2 mots en fait, c'est Isra et elle. Et elle, comme Elohim, elle, ça veut dire Dieu. Et Israël, ça signifie prince, donc c'est prince avec Dieu. C'est ça que ça veut dire, le mot Israël. Prince avec Dieu. Il n'y a que les ténèbres, l'obscurité, l'apostasie qui règne à cette époque. Et frères et sœurs, quand il fait noir, l'histoire change tout d'un coup et on entend à nouveau la voix de Dieu. Car même lorsqu'il fait nuit noire, même quand il n'y a pas d'étoiles, il y a toujours au moins une étoile qui brille pour Dieu. Le Seigneur a toujours quelqu'un pour rendre témoignage de ce qu'il est. Et nous avons l'impression que, et si nous avons l'impression que la viande est totalement pourrie, sur cette viande, il reste au moins un grain de sel qui empêchera que cette viande devienne entièrement pourrie. On pourrait croire que cette nation est comme une pâte de levure, sans levure, mais dans cette pâte, il y a un petit morceau de levure qui aura un effet sur toute la nation. À travers le livre des rois, et on verra pas tout le livre des rois, mais à travers ce qu'on va voir, le livre des rois nous apprend comment briller pour Dieu. Le livre des rois nous apprend comment rendre témoignage pour Dieu quand il fait nuit noire. Quand l'apostasie, la cruauté et des abominations de toutes sortes, eh bien, sont commises par une société qui a abandonné Dieu. Et troisièmement, le livre des rois, eh bien, il nous apprend comment vivre pour Dieu dans une telle situation, dans une situation où règne une obscurité profonde. Voilà pourquoi, j'aimerais, pendant les prochaines semaines, étudier la vie et le ministère du prophète Élie, parce qu'il a beaucoup, à nous parler. Comment s'est-il comporté? D'abord, une première question qu'on pourrait se poser, qu'on va voir, comment Élie s'est-il comporté à son époque? Comment Élie a-t-il navigué sur un bateau, sans bateau, dans une mer aussi déchaînée? Troisièmement, comment va-t-il prendre d'assaut ces châteaux forts que le diable avait instaurés dans la nation? Et c'est ce que nous allons voir maintenant, en une première partie, et au cours des prochaines semaines, si Dieu le veut. Alors, on a décrit les deux peuples, on a situé le temps. Voilà la situation qui existe, à l'époque d'Élie. Et tel était le monde dans lequel Élie devait travailler. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde son nom. Son nom est important. Aujourd'hui, on prend des bouts de phrases, on prend des bouts de mots, on les coupe en deux, on forme un nouveau nom, sorti de nulle part, qui veut rien dire. Mais dans le texte biblique, dans la Bible, chaque nom a son importance. Chaque nom caractérise une personne, la personne en particulier, ou fait référence, finalement, à la croyance de la famille ou à la croyance de la personne. Mais souvent, le nom de la personne, le nom qu'on a donné à la personne, ça caractérise aussi souvent la personne. Moi, je peux dire une chose, en tout cas, on ne le savait pas, on ne les connaissait pas. Ils venaient d'arriver au monde. Les quatre noms qu'on a donnés à nos enfants, ça correspond, dans la grande majorité, ça correspond finalement à leur caractère, à leur trait de caractère. Sarah, Lydia, Josué et Samuel. Ça correspond vraiment à ce qu'ils dégagent. Quatre personnes différentes, quatre sensibilités différentes, avec leurs caractéristiques différentes, et ça correspond finalement à ce que le texte biblique nous décrit. Alors, le premier mot qui apparaît dans 1 Roi 17:1, avez-vous remarqué, c'est pas « il était une fois », c'est le premier mot, c'est « Élie ». Élie. Pourtant, si nous lisons les chapitres précédents, en aucun temps son nom n'est mentionné dans la parole de Dieu. Il apparaît comme un cheveu sur la soupe dans la parole de Dieu et son nom est très significatif. En fait, je peux vous donner quelques noms. Je vous dis que les noms qui sont donnés étaient très significatifs dans la parole de Dieu. Par exemple, Noé, ça voulait dire consolateur. Et pendant 120 ans, Noé va prêcher la parole et va essayer de transmettre cette parole du Dieu de consolation à une société qui vivait aussi sans Dieu. Noé, son nom, ça signifie le consolateur. Abraham, avant que son nom soit changé en Abraham, Abraham, ça veut dire père exalté. Et lorsque son nom change, lorsqu'il devient le père de tous les croyants pour devenir Abraham, ça veut dire père de toutes les nations. C'est extraordinaire, hein? Juste rajouter une petite lettre dans le texte hébreu, et là, ça change toute la signification de son nom, Abraham. Père de toutes les nations. Et Jésus, ça veut dire sauveur. Magnifique. Qui est d'accord avec ça? Jésus, ça veut dire sauveur? Oui, si vous avez mis votre confiance en lui, hein? Jésus, ça veut dire sauveur. Merveilleux. Mais que signifie le prénom Élie? En réalité, on le traduit en français Élie, mais en hébreu, c'est Eliova. E-L-I-Y-O-V-A. Et ce nom veut dire « L'Éternel est ma force » ou « Yahvé est mon Dieu ». L'Éternel est ma force ou « Yahvé est mon Dieu ». Alors, frères et sœurs, quand vous êtes équipés d'un nom pareil, bien, à quelque part, si vous avez une relation intime avec le Seigneur, vous allez avoir un impact dans la société dans laquelle Dieu vous a placé. l'Éternel est ma force. C'était le nom de Eni. Alors, nous avons donc dans ce nom deux noms de Dieu plus le nom personnel. Nous avons l'Éternel qui est Yahweh et nous avons aussi El. El qui veut dire aussi l'Éternel. Alors, on rejoint les deux ensemble. Les deux sont bons. C'est Yahvé est mon Dieu, l'Éternel est mon Dieu, ou l'Éternel est ma force. Voilà donc le nom qu'il portait et voilà le secret de son ministère. Il a fait ce qu'il a fait, non pas parce qu'il était grand, il n'était pas grand, mais parce qu'il s'est appuyé sur la force de Dieu. Et frères et sœurs, le Seigneur aujourd'hui cherche des hommes et des femmes qui vont s'appuyer non pas sur leur propre force, mais sur la force de Dieu pour qu'ils puissent manifester sa puissance à travers ces hommes et ces femmes. Élie était tout seul contre sa génération. Élie était tout seul contre sa génération, en apparence. Il avait toute l'armée céleste derrière lui. Il avait le commandant suprême qui le soutenait derrière lui. Et il se présentait au nom de ce commandant, au nom de ce chef, au nom du chef des armées de l'Éternel. Une des caractéristiques d'Élie, c'est qu'Élie, quand il se présentait devant les gens, eh bien, il y allait au nom de l'Éternel, et l'Éternel était sa force. C'est vrai qu'il a vécu un grand moment de découragement, au point, à un moment donné, dans son ministère, qu'il regrettait d'être venu au monde. Et ça aussi, c'est un piège, on ne doit pas tomber, on regardera ça dans les prochaines semaines. Et vous savez pourquoi Élie a vécu ce découragement? Parce que plutôt que de garder ses yeux fixés sur la parole de Dieu, il a gardé ses yeux fixés sur les paroles que Jézabel venait de prononcer. Et il a fait en sorte de laisser que les paroles de Jézabel prennent le dessus sur les paroles de Dieu. Et ce qui est arrivé, il est devenu comme la plupart des gens. Il a paniqué, il a eu peur. Et là, elle avait dit qu'il ferait arracher la tête. Donc, c'est pas une bonne nouvelle à apprendre, quoi. Quand quelqu'un, on vient d'avertir qu'il y a quelqu'un qui veut te faire arracher la tête puis qu'elle a l'autorité de la faire arracher, c'est pas évident, quoi. Mais si il avait gardé cette parole qu'il avait reçue de Dieu dans son cœur, il aurait dit, moi, c'est pas Jézabel que je crains, c'est pas ses paroles que je crains. Moi, c'est mon Dieu que je sers, que je crains. Parce que mon Dieu est au-dessus de Jézabel. Elle ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. En dehors de ça, elle est impuissante, elle est les mains liées. Mais il s'est arrêté à ce qu'il avait entendu, des paroles menaçantes, des paroles qui disaient, écoute, on va te prendre ta vie, on a dit que ça se réglerait dans les heures qui viennent. Et puis, il est allé se cacher sous un genêt. Et puis là, il regrettait, il pleurait. Il pleurait comme un bébé, quoi. Il pleurait, il regrettait d'avoir été mis au monde, quoi. Et on est semblable à ça un petit peu. C'est une leçon aussi pour nous. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on a besoin toujours, toujours, de méditer, de lire les Écritures et de garder nos yeux fixés dans la parole de Dieu. Hier, on en a parlé au G30, on en a parlé aussi à l'étude biblique mercredi. Il ne faut pas se contenter juste de lire la Bible, il faut la méditer, parce que quand il arrive des moments difficiles, le Saint-Esprit est fidèle et le Saint-Esprit ramène en surface. Il honore le temps qu'on a pris dans la parole avec le Seigneur et il ramène en surface finalement le temps qu'on a passé avec le Seigneur. Les paroles qu'on est allé chercher avec le Seigneur, qu'on les a méditées, le Saint-Esprit les ramène en surface, pas pour nous abattre justement, pour nous éviter d'être abattus, pour nous éviter d'être découragés. Son but, c'est de nous fortifier. Son but, c'est de nous encourager. Son but, c'est de nous amener à persévérer dans la foi que le Seigneur a déposée dans notre cœur quand nous avons entendu cette parole-là. Dites Amen. Amen. Élie, c'était un homme de Dieu. Élie, c'était un serviteur de Dieu. Élie, c'était le grand homme de son époque. Et pourtant, il est tombé dans ce piège-là d'écouter la voix de Jézabel, une païenne, et oublier complètement la parole de celui qui tenait, et oublier la parole de celui qui tient l'univers dans ses mains, de son Créateur. Alors, Élie est tombé dans ce piège-là. On peut avoir tombé dans ce piège-là dans le passé, mais on va voir au fil des semaines comment Dieu nous relève quand malheureusement on écoute la voix de l'être humain plutôt que la voix de Dieu. Alors, en tant qu'homme, il n'en pouvait rien faire par lui-même, mais ses mains vont quand même accomplir l'œuvre de Dieu. Par ses prières, cet homme a ouvert le ciel et il l'a fermé. C'est fort, ça. Y avez-vous pensé? Il a prié. Il savait que c'était la volonté de Dieu. Dieu avait fait cette révélation. Mais il a prié qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie, quoi. Il y en a un autre qui a prié aussi pour arrêter le soleil. Vous vous souvenez qui? Josué. On voit la foi, hein? Il faut que Dieu nous ait révélé que c'est sa volonté, quoi, avant. Et arrêtez le soleil. Il faut le faire, quoi. Arrêtez le soleil. Dis non, l'ombrage. Allez, recule un peu. Il faut le faire, quoi. Et c'est des hommes qui ont marqué leur époque. Et c'est des hommes qui s'appuyaient sur la parole de Dieu. C'est des gens qui se sentaient totalement impuissants et qui s'en remettaient entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et à notre époque aujourd'hui, c'est ce que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui sont conscients de leur faiblesse et qui veulent s'en remettre à celui qui est fort, à celui qui veut devenir leur force. Il y a quelque chose de très important à retenir. Son nom ne veut pas dire « l'Éternel me fortifie ». Son nom veut dire « l'Éternel est ma force ». Ça peut paraître sans grande importance, mais cela a une grande différence, fait une grande différence. Pourquoi? Parce que des gens qui, en voyant des problèmes, les difficultés, la confusion et l'apostasie qui règnent dans ce monde, disent « l'Éternel me fortifiera ». Alors, ils regardent le problème, je vais vous dire, c'est quoi? C'est qu'ils regardent les difficultés, les barricades, les barrières qui se dressent devant eux. Ils sont conscients d'une force intérieure. Ils sourient face à ces difficultés et là, ils se mettent à les démolir, une par une. Ce sont des gens qui ne craignent rien au point où ils deviennent presque toujours arrogants, impitoyables et insensibles, parce que leur philosophie est la suivante, « l'Éternel me fortifie ». Au point, ils sont plus conscients de leur force intérieure que de leur faiblesse. C'est vrai qu'il y a un passage qui dit, « Je puis tout par celui qui… » Mais l'Éternel est ma force, c'est vis-à-vis des autres. L'Éternel me fortifie, moi. Mais l'Éternel est ma force, c'est pour agir dans la vie des hommes. C'est toute la nuance ici dans le texte hébreu. C'est vrai que l'Éternel est là pour me fortifier. Mais l'Éternel est ma force pour les autres. Il me fortifie d'abord. Mais pour agir ensuite vers les autres, j'ai besoin de la force de l'Éternel. Et c'est une énorme différence, quoi. Parce que si je pars avec cette idée, si je ne fais pas attention à cette nuance, c'est que je vais partir comme Ivan Noé, puis je vais partir comme Superman et Batman, et je vais essayer de vaincre le monde, de remporter la victoire sur le monde par mes propres forces, quoi. Mais si d'abord je suis fortifié dans mon cœur, si je suis blindé au niveau de la parole de Dieu, si je suis un homme de prière, eh bien, le Seigneur, et je sais, là je peux aller dans le monde, là je peux aller voir les gens, parce que je sais une chose, c'est que c'est pas moi qui vais agir, c'est celui qui est ma force qui va agir à travers moi. Et c'est lui qui va convertir. C'est lui qui va arrêter le malin s'il veut m'apporter dans le découragement, et ainsi de suite. L'Éternel est ma force, c'est très différent que le Seigneur me fortifie. Élie veut dire ici, l'Éternel est ma force. Et ce qui est intéressant, c'est que Élie est conscient de cette chose, de son nom. Et ce qu'il va regarder, c'est dans son fort intérieur. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que la faiblesse. Il regarde les difficultés, il tremble devant celle-ci. Il recule, il est dans la crainte. Même s'il marche vers les difficultés avec une certaine hardiesse, il ne se sent pas du tout fort parce qu'il se fie à celui qui est fort. L'Éternel est ma force. Toute la différence est là, quoi. Il fait ce qui est juste parce que c'est juste. Il y a des gens qui font ce qui est juste parce qu'ils se sentent forts intérieurement, parce qu'ils se sentent capables. Élie ne faisait pas partie de ce groupe d'individus. Élie, il avance parce qu'il se sent faible, mais il sait que le Seigneur est fort. C'est quand je suis faible que je suis... Oui. Ah, c'est un principe biblique qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui est cité à travers la vie d'Élie, quoi. Et il se répète constamment, Élie, durant son ministère, « L'Éternel est ma force. » Il n'a pas du tout l'impression d'être fort intérieurement, mais il compte sur la puissance de Dieu. Il se voit comme un enfant, voire même comme un nourrisson, que Dieu confond ses adversaires. Passage dans le psaume 8, 3 et 4, pour ceux qui ont leur Bible. Psaume 8, versets 3 et 4, c'est le psalmiste qui le dit. Alors, je vais le lire dans une autre version, suivie, versets 3 et 4, psaume 8. « C'est par la bouche des petits-enfants et des nourrissons que Dieu confond ses adversaires. Leur bouche est un rempart qu'ils dressent pour réduire au silence ses ennemis les plus acharnés. » Vous allez voir pourquoi je vous cite ce passage-là dans 2-3 minutes. Voilà à quoi ce que nous fait penser Élie, et nous allons le voir tout au long de cette série. Il va avancer pour faire face avec une certaine hardiesse à ces difficultés. On peut se rassurer et se réconforter, pardon, ce n'était pas du tout un Superman, au contraire, dans son épître, Jacques nous apprend, Jacques chapitre 5, verset 17, qui peut réciter par cœur, Jacques 17, « Élie était un homme de la même nature que nous. Hey. » C'est pas encourageant, ça? Hein? On aurait pu se dire, écoutez, il était cloné, c'est un gars qui, c'est une race, une nouvelle race, quoi, ou une race qui est disparue, mais la Bible nous dit que Élie était un homme semblable à nous, de la même nature que nous. C'est pas un homme qui vient d'un milieu bourgeois, c'était pas un homme qui semblait avoir fait de grandes études, au contraire, Élie, c'est un homme qui vient d'un village inconnu. Élie, le Tishbite, est-il écrit au verset 1? Eh bien, personne ne sait, même 3000 ans après sa venue sur la terre, personne ne sait où se trouve ce village tellement que c'était insignifiant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient de la région de Galaad, le verset 1 nous le dit, une région dont les habitants vivaient dans la misère et où on retrouvait beaucoup d'immigrants qui ne sont même pas citoyens d'Israël. Et beaucoup de gens sont chassés, vont être chassés par le roi. C'est une région méprisée et oubliée, et de ce village inconnu de Galaad apparaît cet inconnu. Pour quelle raison? Eh bien, ça fait partie de la politique du Seigneur, comme on le lit dans le Nouveau Testament. Dieu a choisi, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, un très long verset. Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce que le monde estime faible pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, celles qui ne sont pas en mesure de réduire à rien les autres. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Afin qu'aucun être humain ne puisse se vanter devant Dieu. Frères et sœurs, Élie, c'est un zéro. Élie, c'est un rien du tout. Élie, c'est une nullité. Mais il devient celui qui convertit, qui est en fait une traduction hébraïque du mot « tchibit ». Élie vient de la région de Tchibit, et le mot Tchibit, ça veut dire « celui qui convertit ». Élie vient d'une région où Dieu l'avait préparé à travailler à travers lui pour convertir des gens. Il devient celui qui convertit Israël, celui qui convertira beaucoup de monde. Alors, si vous arrivez de temps en temps d'être dans le désespoir, au point de vous dire « il m'est impossible dans ma situation actuelle d'être utile à Dieu, je suis un zéro, je suis un rien du tout, j'ai pas de force, j'ai pas de diplôme, scolaire valable, j'ai très peu d'expérience, j'ai très peu de talent, j'ai très peu de dons, j'ai très peu de possibilités, je peux rien faire pour Dieu. » Eh bien, si cela vous arrive de penser ainsi aujourd'hui, alors consolez-vous, parce qu'on est en présence ce matin d'un homme qui correspond exactement à cette description. Mais à travers qui, Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Et frères et sœurs, j'espère que dans votre cœur ce matin, peu importe la situation que vous vivez, vous avez la conviction que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux à travers vous. Premièrement, il veut que vous soyez aussi des Élie. Des Élie qui vont convertir des gens. D'abord, vos enfants dans vos maisons. Ne désespérez pas, continuez à prier pour vos enfants. Vos enfants, Dieu les aime autant qu'ils vous aiment, autant qu'ils m'aiment. 1 Timothée, chapitre 2, les versets 6 à 8. Paul rappelle à Timothée que Dieu est notre sauveur et que Dieu veut que tous parviennent au salut et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que vos enfants parviennent aussi au salut, comme Dieu voulait que la génération d'Élie parvienne au salut. Alors, si vous êtes découragé, continuez à prier. C'est un combat spirituel, quoi. Et partez avec cette philosophie d'Élie, partez avec cette conviction d'Élie. Dieu est votre force. Dieu est votre force. Et vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Mais vous avez d'abord besoin de vous blinder. Se fortifier, c'est se fortifier dans la parole de Dieu. C'est se fortifier dans la prière. Parce que quand on prie à Dieu, eh bien, puis on prend un temps de silence, Dieu nous répond. Dieu nous répond à travers la parole. Dieu nous répond à travers un frère. Vous savez, c'est vrai que la situation en Angleterre n'est pas celle d'ici. En Angleterre, il y a une église à peu près à tous les trois coins de rue, quoi. Et ça fait que c'est vraiment des églises locales, quoi. Les gens ne prennent pas vraiment leur voiture pour aller à l'église. C'est des petites églises. C'est vrai qu'il y a des grosses églises, mais moi, je n'étais pas à Londres. J'étais dans une banlieue de Londres. J'étais à 2h30 de Londres. Alors, on peut organiser beaucoup plus de choses, mais je pensais d'aller là en vacances, quoi. C'était un séminaire, mais on m'a fait travailler pendant tout le week-end, quoi. Et le lundi matin à 9h, pendant toute la semaine, de 9h à 9h30, c'est la prière des hommes, quoi. Les hommes se rendent à l'église, surtout les pensionnés, quoi. Ceux qui travaillent ne peuvent pas. Et de 9h à 9h30, c'est réunion de prière pour les hommes. faisait longtemps que je n'avais pas vu des chrétiens se mettre à genoux pour prier. Nous, on est en réaction au catholicisme. Hein. Vous savez, il y avait des bancs pour s'agenouiller dans l'Église catholique. Je me souviens, on avait mal aux genoux. C'était du chêne, quoi. Puis ça nous faisait mal aux rotules, quoi. Et on devait s'agenouiller, quoi, dépendant de la cérémonie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des chrétiens prendre un temps de prière à genoux. De 9h30 à 10h, quand les hommes quittent l'Église, de 9h30 à 10h, c'est les femmes toute la semaine qui viennent prier. Les femmes qui sont à la retraite, les femmes qui ont élevé leurs enfants, qui ne travaillent pas, eh bien, elles se présentent à l'Église et elles prient. Et elles prient, pourquoi? Parce que leurs enfants ne sont pas tous au Seigneur. Et aussi parce que dans cette Église, c'est multiculturel. Il y a des Iraniens, des Irakiens, il y a des Palestiniens, il y a toutes les races. Et il y a un travail colossal à faire dans cette Église-là. Et par la grâce de Dieu, ils savent que ce combat commence d'abord par la prière. Et on va le voir à travers ces passages au long des semaines. Élie était un homme de prière. Alors, rapidement, la croyance d'Élie maintenant, eh bien, on a parlé de son nom, on a parlé de son époque, maintenant je vais vous parler de sa croyance qui se voit dans le verset 1. Élie de Tchibit, l'un des habitants de Galaad, dit à Akad, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Le Dieu d'Israël dont celui je suis le serviteur, ça veut dire l'Éternel, le Dieu d'Israël dont, devant qui je me tiens. C'est ce que ça veut dire, quoi, le texte. Devant qui je me tiens. Qui est le Dieu d'Israël? Qui est donc ce Dieu devant qui il se tient? C'est celui-là même qui s'est entretenu avec Abraham sous le chêne de Mamré. C'est celui-là même qu'Abraham a appelé Seigneur. C'est celui-là même qui s'est battu avec Jacob à Pénuel et qui lui a dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. C'est celui-là même qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. C'est celui-là même qui est le rocher vivant qui a accompagné Israël dans le désert et qui s'est révélé à Josué comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, le Dieu d'Israël, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que la plupart des Juifs ne connaissent pas leur Dieu, puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ aujourd'hui. Quand Isaïe a vu le Seigneur dans le temple, il a vu Yahvé, le Dieu d'Israël, et Jean dans son évangile, au chapitre 12, verset 41, eh bien, nous dit que le Dieu d'Israël, le Dieu qu'Isaïe a vu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean, chapitre 12, verset 41, pour ceux qui prennent des notes, vous regarderez ça. Isaïe dit, c'est Jésus-Christ qui l'a vu. Lorsqu'Élie dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il s'agit d'un homme qui est réconcilié avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Élie était un croyant de l'Ancien Testament. Dieu est son sauveur et il marche par la foi avec Dieu. Voilà pourquoi il est capable de dire, Dieu d'Israël, c'est le Dieu devant qui je me tiens. Et frères et sœurs, rappelez-vous cette phrase, Dieu est le Dieu des vivants. Seigneur Jésus, il dit, laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts spirituels enterrer les morts spirituels. Toi, ton Dieu, c'est le Dieu des vivants. Ève, elle porte le nom de la mère de tous les vivants. Et en, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, j'en fais pas un dogme, mais en théologie, en faculté, on nous dit souvent que si Ève et Adam ne s'étaient pas convertis, ne s'étaient pas repentis, eh bien, elle n'aurait pas porté le nom de Ève, elle aurait porté le nom qui aurait dit la mère de tous les morts. Mais vu qu'on dit la mère de tous les vivants, aussi en relation, en référence avec le sacrifice que Dieu lui-même a fait, le premier sacrifice, c'est Dieu qui a tué la bête pour offrir le sacrifice, eh bien, on dit que, en fonction de ça, en référence avec ça, Ève, elle se serait repentie, elle aurait reconnu son péché, ainsi qu'Adam, et elle serait devenue la mère de tous les vivants. Et frères et sœurs, nous, on a un Dieu, c'est notre Dieu, c'est le Dieu de tous les vivants. Et voilà pourquoi nous avons une espérance vivante. Le monde nous offre une espérance qui est décevante. Le monde se ramasse un pactole. Les gens se travaillent pour pas mourir d'ennui. Il y a un dicton au Québec qui dit, il y a des gens qui perdent leur vie à essayer de la gagner, quoi. Et c'est vrai, quoi. C'est vrai parce que tu te retrouves devant rien à la fin de ta vie. Et c'est ce qui est décevant, c'est que quand tu commences à additionner, comptabiliser les heures que tu as passées pour ramasser ce que tu as et que tu peux rien apporter avec toi, c'est ce qu'on appelle une espérance décevante. Mais pour que les gens continuent à vivre, pour que les gens continuent à espérer dans ce monde, on leur crée des ambitions, quoi. Et les gens, ben, ils aspirent, ils essayent de remplir ces ambitions, puis quand ils sont arrivés à ces ambitions, ben là, on en crée d'autres ambitions, puis ça sert un peu à ça aussi, nos gouvernements, hein. Les nouveaux programmes pour stimuler le peuple à continuer à suivre le gouvernement et à s'entraîner, mais ça reste toujours une espérance décevante, quoi. Et notre espérance, nous, elle est vivante, quoi. Parce qu'on sait que quand on va disparaître de ce monde, on va rentrer dans un autre monde, qui est celui de Dieu, dont Jésus-Christ nous attend, quoi. Et on va passer l'éternité avec lui. Et non seulement on va rester, on restera pas scotché au ciel, mais un jour, la Bible nous dit, à travers la parole de l'apôtre Jean, qu'il y aura une nouvelle terre, il y aura des nouveaux cieux, et ceux qui ont vécu en fonction de cette espérance vivante, ceux qui ont placé leur confiance dans ce sacrifice de Jésus-Christ, un jour, il y aura la résurrection des justes, la résurrection des injustes. Les injustes pourraient être jugés et perdus pour l'éternité, dans des souffrances terribles. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la résurrection des justes, parce que Dieu va nous redonner un corps. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'essaie de retrouver le passage. Est-ce que c'est pas dans Philippiens, quoi, chapitre 3? Oui, voilà. Voilà, Philippiens, chapitre 3. Hein? Dieu va nous redonner un corps. Paul explique, chapitre 3, verset 20-21, Paul explique qu'on est citoyen du royaume des cieux. Vous pouvez tourner pour être sûr que je ne me trompe pas. Citoyen du royaume des cieux, d'où nous attendons, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre misérable corps terrestre pour le rendre semblable à son corps de gloire. C'est ce qu'il dit. Et ce corps de gloire, c'est le même corps qu'il avait après sa résurrection. Moi, je ne veux pas l'avoir parce qu'il passait à travers les murs, mais moi, je vais l'avoir parce que je n'y irai plus, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort. Et je vais passer l'éternité avec mon Sauveur dans ce paradis que Dieu est en train de nous préparer. Tu t'emmènes à ça? OK, je vais fermer la parenthèse, on va essayer d'aller très, très vite. Frère et soeur, si je me trouvais un jour devant un roi qui aurait le droit de me mettre à mort ou encore de me faire pendre en claquant des doigts, personnellement, je serais frappé de terreur. Élie va se présenter devant un tel roi qui s'appelle Achab. Mais il n'est pas du tout harcelé ni intimidé par la présence de ce roi si puissant qui avait le droit, à partir d'un claquement de doigts, de le faire pendre, de le mettre en prison ou encore d'en faire un prince. Parce qu'il est davantage conscient de la présence de Dieu. Il sait qu'il est dans la présence du roi, mais c'est devant le Dieu d'Israël qu'il se tient. Et là-haut, dans la montagne de Galaad, il avait cultivé une relation avec son Dieu. Depuis des années, il vivait consciemment dans la présence de Dieu. Il avait passé ses journées à écouter la voix de Dieu, à cultiver une communion intime avec Dieu. Et cet homme, maintenant que nous voyons, qui se rend au palais du roi, eh bien, il va se présenter devant le roi pour lui annoncer quelque chose. C'est un homme qui vivait dans la crainte de Dieu. Voilà en quoi il avait mis sa foi. Et tous ceux qui veulent accomplir quelque chose pour Dieu doivent prendre l'exemple sur Élie, qui était un homme de prière, un homme qui avait une connaissance profonde de la parole et qui marchait intimement avec le Dieu d'Israël. Frères et sœurs, ma prière ce matin, c'est que nous puissions tous désirer ardemment, comme Élie, vivre la même relation avec Dieu, parce que c'est de cette façon que Dieu fait de nous des hommes et des femmes qui vont être utiles pour l'avancement de son royaume. Amen. Cinq minutes encore, oui. Les premières paroles d'Élie. Encore une fois, 1 Roi, chapitre 1, chapitre 17, verset 1. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il y aura là, il apporte la déclaration que Dieu lui a placée sur son cœur, qu'il lui a demandé de proclamer. Il y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alors les ténèbres régnaient sur la nation, et ce roi, ce tyran, qui se trouvait sur son trône, a devant lui un vulgaire paysan de la montagne. Mais cet homme est différent. Il ne tremble pas devant le roi. Il ne s'excuse pas. Il ne fait pas de requête. Au lieu de cela, il vient lui annoncer une mauvaise nouvelle de la part du Seigneur. Imaginez, toute la nation a dû frissonner. Elle doit lui avoir dit, écoute, Élie, t'es complètement fou. Tu sais pas ce que tu fais, tu risques de perdre ta vie. Va pas te présenter devant le roi. Parce que tu sais bien que tes paroles ne s'accompliront pas. Tu sais bien que tout le monde va se moquer de toi. Et il va quand même aller trouver Achab. Et Achab va chanceler quand il va entendre ce que Élie va dire. Et qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie va lui tourner le dos, puis il va partir en grande enjambée. Ils s'en vont. La trompette a sonné. C'était l'heure que la trompette sonne pour ce peuple. Et dans cette nation païenne, eh bien, on entend à nouveau la parole de Dieu. Et frères et sœurs, je pense qu'aussi la trompette est venue aujourd'hui, en 2012, pour que les enfants de Dieu puissent se lever. Et puis que cette trompette qui se fait entendre, ce soit la parole de Dieu. On est dans une génération, frères et sœurs, qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Moi, je parle à l'Église de se lever. Mais s'il y a une seule personne dans l'Église ici, qui décide de devenir un Élie, qui décide de partir avec l'idée, la conviction dans son cœur, Dieu est ma force. Dieu va faire des ravages à travers cette personne-là dans le monde des ténèbres dans lequel on vit. Frères et sœurs, quand vous regardez les boules de cristal, les diseuses de bonne aventure à TV, quand vous regardez, là, je suis l'heure du dîner, hein, tard le soir, quoi, à 2 euros la minute, 2,50 euros la minute, 4 euros la minute, quoi. Vous regardez ce que les gens leur racontent, quoi. Bien, on vit dans un monde qui est désespéré, qui est désemparé. Non seulement les gens ne sont pas capables de vivre au présent, mais ils vont, à travers ces charlatans, ils vont essayer d'aller chercher de l'espoir pour essayer de connaître si dans le futur, ça ne sera pas mieux pour eux, si l'avenir ne s'annonce pas mieux pour eux, à travers ces charlatans, frères et sœurs. Nous, on n'a pas, on sert pas un charlatan, on sert quelqu'un qui a donné des prophéties, qui nous a révélé des prophéties, qu'elles se sont toutes accomplies une par une. Et frères et sœurs, c'est pas un charlatan parce que c'est lui qui dirige l'histoire. C'est lui qui contrôle l'histoire. Et c'est lui qui a mis un début à cette histoire de l'homme. Et c'est lui qui, un jour, va mettre une fin à cette histoire de l'homme. Alors, on n'est pas entre les mains de n'importe qui. Ça ne nous coûte rien pour l'appeler. Ça ne nous coûte rien pour connaître notre avenir. Notre avenir, il nous l'a révélé depuis des siècles. Et c'est dans la parole de Dieu. Il faut avoir le courage d'aller dans la parole de Dieu. Il faut avoir le courage de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a des révélations extraordinaires à vous faire à vous. Il vous dit que vous êtes rien, que vous êtes des nuls, que vous êtes des zéros, mais que c'est à travers vous qu'il va faire des héros. Rappelez-vous quand, quand l'ange de l'Éternel va voir Gédéon. Gédéon, il est caché. Il est caché parce qu'à chaque fois qu'ils font une petite récolte, les Israélites, eh bien, leur ennemi vient, puis ils arrachent tout, puis ils détruisent tout, puis ils brûlent tout, quoi. Et là, l'ange de l'Éternel, il vient le voir, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, il se présente devant un peu heureux, quoi. Un gars qui se cache, quoi. Qui avait même peur des femmes, quoi. Ah, il se cache! Il va lui dire, « Salut, vaillant héros. Salut, vaillant héros. » Oui. Tu vas devenir un vaillant héros à travers moi, quoi. Parce que tu es un zéro. Et c'est des zéros, c'est des nuls. Alors, on vit dans un monde de thérapie, dans un monde de psychologie. C'est vrai de dire que les gens sont nuls, sont zéros, ça fait très négatif. Mais pour Dieu, c'est pas négatif du tout. Parce que quand on se voit tel qu'on est faible, qu'on n'est rien, en dehors de Dieu, eh bien, à ce moment-là, Dieu peut faire des miracles dans nos vies, comme il le fait dans la vie d'Élie. Vous êtes amen à ça? Je termine. Et tous ceux qui, dans l'histoire de l'Église, ont fait une impression pour Dieu, étaient de ce genre, étaient comme Élie. J'espère que le Seigneur me donnera l'épitaphe suivante et qu'il vous donnera la même épitaphe qui se trouve dans Actes chapitre 13. Si vous voulez tourner dans, dans Actes chapitre 13, verset 36, on va tourner avec ça. Dieu a utilisé Élie dans son époque pour sauver Israël. Dieu a utilisé John Wesley au 18e siècle pour empêcher l'Angleterre de vivre une révolution semblable à celle de la France. Vous savez que Wesley et Voltaire se sont croisés hein, sur les bateaux. Voltaire est parti avec sa philosophie humaine. Il a dit, moi, je vais changer la France. Ça a provoqué une révolution. Il a essayé avec des moyens d'hommes. Wesley a dit, moi, je suis un proclamateur de l'Évangile. La seule façon de transformer l'Angleterre, c'est à travers l'Évangile. Et Wesley, à travers Wesley, Dieu a privé l'Angleterre de vivre la même révolution que la France a vécue. Et l'Angleterre est devenue un bastion évangélique. Actes chapitre 13, verset 36, c'est l'épitaphe de David, car il est impossible que ce soit l'épitaphe d'Élie. Après avoir servi dans sa génération le dessein de Dieu, il est entré dans sa gloire. Hein, c'est ça qu'il est écrit, hein, après avoir eu en son temps servi au dessein de Dieu, il ou est décédé, c'est-à-dire qu'il est rentré dans sa gloire. J'espère que ce sera votre épitaphe, c'est ce qui sera marqué sur votre épitaphe, j'espère que ce sera ce qui sera marqué sur mon épitaphe. En attendant, frères et sœurs, que nous puissions, même si la viande nous semble pourrie, comme à l'époque entièrement pourrie, comme à l'époque d'Élie, eh bien, vous êtes un grain de sel que Dieu veut utiliser pour empêcher que cette population qui se trouve à l'extérieur soit complètement pourrie. Dieu veut que vous soyez ce petit morceau de levure qui va faire en sorte de lever une armée pour proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'on puisse garder nos yeux sur ce modèle que le Seigneur nous a laissé dans l'Ancien Testament, qui est Élie, un homme dont sa force dépendait entièrement de l'Éternel, mais qui se fortifiait dans sa relation qu'il avait avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.